Bienvenidos a este informativo de Radio France Internationale. Paris
Live with me, Accent du monde. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, pour la rédaction roumaine de RFI, Matei Visniec nous parlera de l'accueil des réfugiés ukrainiens en Roumanie. Bonsoir.
Bună seara.
Nous avons également le plaisir d'être avec Orlando Torricelli de la rédaction hispanophone de RFI.
Hola, hola, buenas noches.
Avec vous, Orlando, on reviendra sur le deuxième tour de la présidentielle au Costa Rica. Et puis Naïdi Ribeiro de la rédaction lusophone de RFI nous parlera des tremblements de terre aux Açores au Portugal.
Hola, buenas noches.
Bonsoir à tous les trois. Et ce qui fait la une avant cela, ce sont les risques de famine ou du moins de pénurie alimentaire à l'échelle mondiale en raison du conflit en Ukraine. Des millions de personnes pourraient être en péril du fait de l'invasion russe. Un avertissement lancé cette semaine, Naïdi Ribeiro, par le directeur du programme alimentaire mondial, David Beasley.
Ça pourrait être même le pire scénario de famine mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, Clémentine. Les pénuries alimentaires, en particulier des céréales telles que le blé et le orge, dont les Russes et les Ukrainiens sont les plus grands exportateurs du monde, menacent de dévaster les efforts du programme alimentaire mondial pour nourrir quelques 125 millions de personnes dans le monde. Le directeur du programme alimentaire mondial explique que ce bouleversement mondial est le fait que d'innombrables agriculteurs ukrainiens combattent désormais les envahisseurs russes au lieu de continuer à se concentrer sur la production agricole. David Beasley admet que 50% des céréales achetées par le PAM, la branche d'aide alimentaire des Nations Unies, proviennent d'Ukraine, laissant supposer la dévastation que cela aura sur les opérations du programme alimentaire mondial. Luís Capoulos Santos, ancien ministre portugais de l'agriculture et actuellement député européen, nous a parlé de l'impact de cette guerre, admettant un vrai risque sur le secteur alimentaire.
Existe este risco, por isso é que compete aos políticos encontrar soluções que previnam ou pelo menos reduzam esse risco.
Et alors que dit-il, Naïdi?
Il reconnaît que ce risque et explique que ça revient aux politiques de trouver des solutions que préviennent ou du moins réduisent ce risque. D'autre part, il dit que l'Ukraine est un des importants producteurs de céréales et la situation de destruction que le pays vit en ce moment mettra en péril les récoltes et cela provoquera des énormes perturbations. Capoulos Santos rappelle que l'on ne parle pas là d'une usine où nous pourrions augmenter ou réduire la production à notre guise. Nous sommes dépendants des cycles de la nature et de la production de céréales prend un an.
Et ce conflit en Ukraine, il affecte déjà le continent africain où la famine guette et plusieurs pays commencent d'ailleurs à rationner.
En effet, Clémentine, le cri d'alarme a été lancé par António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Elle évoque un effondrement du système alimentaire mondial et l'Afrique en serait la première victime. 45 pays africains importent en effet au moins un tiers de leur blé de Ukraine ou de Russie. Or, les deux pays en guerre ne pourront bientôt plus expédier leurs marchandises. Des prix qui atteignent depuis des semaines des records historiques. Certains commencent déjà à rationner. C'est le cas dans certaines boulangeries au Liban, où le prix du pain a augmenté de 20% en une semaine. Une augmentation due au prix du blé, mais aussi à la flambée des prix du pétrole transporté. S'éclairer et cuire coûte plus cher. Au Cap-Vert, par exemple, le gouvernement a approuvé des mesures d'atténuation et de gel des prix des carburants d'avril à juin et des produits agroalimentaires pour faire face aux augmentations internationales provoquées par la guerre en Ukraine. Le mil et le sorgho africains ont été délacés au profit du riz asiatique et du blé européen, accentuant la dépendance du continent par rapport aux importations et l'exposant aux fluctuations des cours sur les marchés mondiaux, un phénomène encore exacerbé par l'inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine. L'Afrique devrait en retirer des leçons. Luís Capoulos Santos, ancien ministre portugais, parle des conséquences désastreuses pour l'Afrique.
As consequências em África poderão ser desastrosas, tal como alertou muito recentemente em termos dramáticos.
E lá que dit-il, Naïdi?
Il dit que les conséquences pourraient être désastreuses car l'Afrique est fortement dépendante des importations et de l'aide alimentaire. Et si le prix augmente beaucoup, il est évident que le budget disponible sera plus réduit et tendront à garantir un approvisionnement moindre en nourriture pour des populations qui vivent déjà très difficilement.
Et dans votre rédaction hispanophone aussi, Orlando Torricelli, vous avez abordé les risques de pénurie alimentaire mondiale à la suite de cette invasion russe en Ukraine.
Et bien sûr, Clémentine, il ne faut pas oublier que ces deux pays, aujourd'hui en guerre, la Russie et l'Ukraine, sont deux exportateurs majeurs de blé. Et pour la numéro 2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, qui s'exprimait dans le cadre d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Ukraine, La Russie et Poutine, sont les responsables de cette situation ayant déclenché une guerre contre l'Ukraine, les greniers à blé de l'Europe. Par ailleurs, l'ambassadeur français Nicolas Desrivières est allé dans le même sens. Et pour lui, l'agression russe accroît les risques de famine dans le monde.
Mais les Russes, de leur côté, Orlando, voient les choses différemment.
Ben oui, les représentants permanents de la Russie au Conseil de sécurité, Vassili Debenseya, a réfuté les accusations occidentales en affirmant que les véritables raisons des graves turbulences sur les marchés mondiaux de l'alimentation ne sont en aucun cas dues à la Russie, mais plutôt à l'hystérie, c'est les mots qu'il a employés, des sanctions lancées par l'Occident contre Moscou. En tout cas, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires, Joyce Mensuya, les conflits en Ukraine menacent de faire empirer les choses pour les plus grandes crises humanitaires de la planète, comme Afghanistan, au Yémen, dans la Corne d'Afrique, parce que, pour commencer, les prix vont augmenter. C'est ce qui nous a expliqué la semaine dernière à notre antenne José Luis Fernandez, représentant de la FAO en Haïti.
Lo que se está proyectando es que todos los precios a nivel mundial en los mercados mundiales va a aumentar.
Alors qu'est-ce qu'il dit le représentant de la FAO en Haïti?
Il explique que selon les projections, tous les prix dans les marchés mondiaux vont augmenter du moment où il y aura moins d'approvisionnement de la part de Russie et l'Ukraine. Et les autres pays exportateurs vont augmenter leurs prix et certains même à bloquer ces exportations ou diminuer les volumes.
Alors pour résumer, moins de volume sur les marchés internationaux égale pénurie?
Oui, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie représentent 30% des exportations mondiales des blés, 20% du maïs et 75% de l'huile de tournesol. De son côté, le directeur du programme alimentaire mondial, David Beasley, rappelle que 50% des céréales qu'ils achètent viennent de l'Ukraine et que les programmes alimentaires font vivre 125 millions de personnes. Avec ces chiffres, il ne faut pas être dévain pour voir la catastrophe humanitaire qui se profile.
Une catastrophe qui, même si elle est loin, Orlando, pourrait aussi frapper l'Amérique.
Bien sûr qu'elle ne sera pas épargnée, avec plus ou moins d'intensité selon les pays. Prenons le cas d'Haïti, comme nous l'expliquaient cette semaine les représentants de la FAO.
Tenemos actualmente 45% de la población del país que se encuentra en una situación.
Ce qu'il dit, c'est que 45% d'habitants sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire.
Oui, c'est tout à fait ça. En Haïti, actuellement, 45% de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire grave. Ils importent plus de 70% de sa consommation de céréales, mais pas seulement d'Ukraine, sinon des divers pays. Et en plus, il y a des gangs en Haïti qui bloquent l'économie du pays. Et tout cela impacte les prix du marché et dans un pays qui, en plus, est exposé à toutes sortes de catastrophes naturelles, plus l'inflation qui frappe les familles qui vivent dans la pauvreté.
En tout cas, l'argument de la souveraineté alimentaire risque de s'imposer dans l'agenda international.
Sans doute, le problème, c'est quel type de réponse mettre en pratique. Certains soulignent la tentation d'évoquer cette notion de souveraineté alimentaire comme un euphémisme pour appliquer des mesures protectionnistes, en particulier des interdictions d'exportation par les pays producteurs. Dans ces cas, on pointe surtout la Russie, mais aussi l'Argentine, l'Hongrie, l'Indonésie et la Turquie. Un autre résultat malheureux de ces conflits est que les prix du blé acheté par les programmes alimentaires mondiaux a augmenté sensiblement. En conséquence, les prix de l'aide alimentaire d'urgence aussi, donc avec les mêmes budgets, on pourra aider moins de gens. En tout cas, comme disaient les chefs des programmes des Nations Unies pour le développement, les conflits réduira l'ampleur de la solidarité internationale avec des conséquences terribles dans des pays comme le Yémen et l'Afghanistan.
Et dans ce contexte, le blé devient une arme diplomatique étant donné que l'Ukraine et la Russie sont deux grands exportateurs de cette denrée. Le problème, c'est que le blé ne part pas vers les destinations habituelles. Matej Wisniewski, vous avez abordé le sujet pour la rédaction en langue roumaine de RFI.
Oui, je me rappelle d'une époque où l'Union soviétique importait du blé américain car l'agriculture socialiste au temps du communisme n'était pas capable de produire assez de blé pour nourrir la population. En 1959, le leader soviétique de l'époque, Nikita Khrushchev, qui était d'ailleurs ukrainien, lors d'une visite aux États-Unis, ne cachait pas son admiration devant les champs de blé et de maïs aux États-Unis. Donc, et au retour, elle avait posé cette question au responsable soviétique chargé des affaires agricoles. Pourquoi les Américains sont capables d'avoir une productivité si spectaculaire de blé et de maïs et nous, rien ? Il a fallu la chute du communisme pour que les choses changent en Russie et pour que ce pays devienne le premier exportateur de blé au monde. L'Ukraine, qui dispose de terres noires très fertiles, se situe sur la cinquième place en ce qui concerne l'exportation du blé. La Russie et l'Ukraine ont d'ailleurs des clients en commun. Dans le monde entier, le blé sert comme base d'alimentation. En conséquence, on peut s'attendre, suite à la guerre en Ukraine, à assister à beaucoup de perturbations et même à des drames alimentaires.
Et il faut d'ailleurs préciser, Matej, que plusieurs pays dépendent entièrement du blé russe et ukrainien.
Oui, la publication économique Les Échos apporte des chiffres concernant ce blocage. La récolte du blé russe s'annonce en 2022 encore plus abondante que l'année passée. 85 millions de tonnes. Or, les sanctions internationales bloquent les exportations russes et on ne sait pas combien cela va durer. 30% de ces exportations partent en bateau des portes de la mer Noire, mais la mer Noire est devenue une zone de guerre, de conflit. Le prix du blé, bien sûr, ne cesse de monter. À mi-mars, par exemple, la tonne de blé coûtait 360 euros, mais depuis, le prix a grimpé. Voici une liste de pays qui dépendent presque à 100% des importations de blé russe. L'Arménie, la Mongolie, l'Azerbaïdjan, Kazakhstan, Bénin, Rwanda, la Turquie dépendent du blé russe à 68%, l'Égypte à 62%, la Somalie et le Pakistan à 37 et 38%. Ces deux derniers pays achètent aussi dans la même proportion du blé ukrainien. La Moldavie dépend à 82% du blé ukrainien et le Liban à 61%. La Libye, la Tunisie à 40%. La pénurie alimentaire mondiale a été pratiquement annoncée d'une manière officielle par le président Joe Biden lui-même lors de sa venue à Bruxelles le 24 mars pour les sommets du G7 et de l'OTAN.
Une pénurie qui risque en tout cas de se produire aussi parce que l'Ukraine limite les exportations de produits agricoles.
Et c'est normal, suite à l'invasion russe, le gouvernement de Kiev a limité effectivement les exportations de blé, d'avoine, de volaille, de sucre, de l'huile de tournesol. On a introduit des quotas pour l'exportation de bétail, de viande de bétail, de sel, de sarrasin, de seigle. Il y aura donc des perturbations sur le marché alimentaire mondial et beaucoup d'augmentation de prix, on l'a dit déjà. D'autres pays producteurs de céréales commencent d'ailleurs à instaurer des quotas pour leur exportation, comme l'Argentine ou la Bulgarie. Selon le programme alimentaire mondial, on l'a cité déjà, les prix des denrées alimentaires sont déjà au niveau record. Les spécialistes affirment que le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine menace aussi l'agriculture française. Dans ce contexte d'incertitude, il faut encore souligner une chose. Avant 2014, la Russie n'était pas autosuffisante en céréales, en viande porcine et poulet. C'est après les premières sanctions imposées par les Occidentaux suite à l'annexion de la Crimée que la Russie a renforcé ses investissements dans l'agriculture. À l'époque, Vladimir Poutine avait même fait quelques commentaires ironiques en disant à peu près cela. Merci à vous les Occidentaux d'avoir décrété des sanctions pour nous obliger de réformer notre secteur agricole et alimentaire. C'est peut-être important de retenir cela. Les sanctions n'auront jamais un effet radical sur la Russie et les Russes, c'est-à-dire dans le plus grand pays du monde qui dispose de ressources énormes et où la population est habituée avec toutes les privations possibles.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Chamassé, Dinan Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Clémentine Pavlotsky.
Et on continue de parler de cette guerre en Ukraine, cette fois à travers le prisme humanitaire avec l'accueil des réfugiés ukrainiens en Roumanie. Matei Visniec, vous avez là aussi évoqué à plusieurs reprises le sujet pour la rédaction en langue roumaine. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez vous-même visité une région qui se trouve à la frontière avec l'Ukraine.
Oui, disons que je suis né au nord de la Roumanie, dans une petite ville située à seulement 20 km de la frontière. C'est une région où il y a une minorité qui parle l'ukrainien. Et d'ailleurs, de l'autre côté de la frontière, il y a des villages roumains. La Roumanie a une frontière de 400 km avec l'Ukraine. Et les points de passage ne sont pas nombreux à cause du relief. Nous sommes là dans les Carpates, il y a des forêts à perte de vue et même des sommets de 1900 mètres. On appelle cela la frontière verte. Et pendant trois décennies, depuis la chute du communisme, cela a été le paradis du trafic de cigarettes. Difficile à dire combien d'Ukrainiens ont passé la frontière roumaine, mais quand même on peut chiffrer, soit 600 000. Beaucoup moins qu'en Pologne. Il faut dire aussi que pour les Ukrainiens qui arrivent en Pologne, la barrière de langue n'est pas aussi forte qu'en Roumanie. Un Polonais et un Ukrainien arrivent à s'entendre. Les deux langues sont des langues slaves, ce qui n'est pas le cas avec un Ukrainien et un Roumain, car les Roumains ont une langue latine. Les réfugiés ukrainiens ont été très bien reçus en Roumanie. D'ailleurs, environ 120 000 sont restés en Roumanie. Il y a eu une forte mobilisation pour l'accueil, beaucoup de volontaires, beaucoup de moyens, transport gratuit à Bucarest ou dans d'autres villes pour ceux qui voulaient prendre l'avion. J'assistais moi-même à des scènes émouvantes parce que très souvent, les réfugiés ukrainiens attendent pendant des heures et des heures pour passer dans des conditions difficiles avec des enfants, des femmes. Et une fois arrivés en Roumanie, ils sont accueillis les bras ouverts avec des repas chauds, des médecins, des jouets pour les enfants, des tentes pour une première évaluation. Au début, c'était un peu le chaos. Il y avait même trop de Roumains qui venaient offrir leurs aides et leurs services. Maintenant, tout est parfaitement organisé et sécurisé parce que les trafiquants sont eux aussi à la recherche des proies faciles, par exemple des jeunes femmes ukrainiennes sans protection.
Et est-ce que les réfugiés ukrainiens s'installent en Roumanie ?
Voilà, j'avais dit, il y en a qui s'installent, mais ils se dirigent en général vers l'ouest. Presque chaque réfugié a de la famille ou des amis en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne. La Roumanie est donc plutôt un pays de passage. On observe qu'un certain nombre de réfugiés ukrainiens préfèrent la Bulgarie, car la langue bulgare est aussi une langue d'origine slave. Et pourtant, comme je disais, il y a des familles qui restent en Roumanie en pensant que la guerre va s'arrêter et que ces familles pourraient rentrer plus facilement. On constate aussi une autre tendance en Ukraine, des réfugiés de l'intérieur qui restent dans leur pays, mais très près de la frontière avec la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne. C'est pour passer plus vite si les Russes avancent. J'ai beaucoup parlé avec des amis roumains de ma ville natale qui ont accueilli des réfugiés. Ils me disaient qu'au début, juste après l'invasion russe, il y avait entre 5 000 et 10 000 réfugiés qui entraient tous les jours par ce pont de frontière. La moitié arrivait en voiture et la moitié à pied. Évidemment, les hommes restaient en Ukraine pour se battre. Il y a une autre image que je voudrais évoquer, un pont, un autre point de passage en effet, où l'accès vers la Roumanie se fait par un pont assez long. Sur ce pont, les Roumains ont mis d'un côté et de l'autre, tout au long des balustrades, des jouets et des peluches pour que les enfants ukrainiens oublient en entrant en Roumanie un tout petit peu le drame dont ils sont peut-être les premières victimes.
Matei, vous avez aussi interviewé pour la rédaction en langue roumaine une autrice, Neda Nejdana, dont les pièces sont traduites en français.
Oui, c'est très émouvant ce qu'elle me disait au moment où elle se cachait avec sa famille dans un village situé à environ 30 km de Kiev. Elle est francophone, écoutons-la.
Les soldats de Kadyrov, ce sont les terroristes très dangereux. Donc, maintenant, je suis évacuée dans un autre village parce qu'on a peur. Un garçon était torturé partout. On essaie de ne pas marquer les villages, les routes pour désorienter l'armée.
Voilà, donc situation de guerre, bien sûr. Je signale d'ailleurs que beaucoup d'auteurs ukrainiens sont traduits en français. Le plus connu est bien sûr Andrei Kourkov, qui a eu un grand succès international avec son premier roman « Le pingouin ». On apprend beaucoup en lisant Kourkov de l'Ukraine, sur l'Ukraine. Mais je voudrais citer aussi un poète, Ilya Kaminsky, un prosateur, Oleg Sentsov, et ou bien Stanislav Asseyer, qui a écrit un livre intitulé « Je suis brisé, Donbass, un journaliste en camp raconte », livre paru l'année passée. La maison d'édition Espace d'un instant a édité 5 auteurs de théâtre ukrainien, dont Neda Nejdana, avec sa pièce « Maïdan Inferno », écrite à l'époque de la révolution du 2014 de la place Maïdan. Ce qui est très émouvant dans cette pièce, c'est que déjà en 2014, l'autrice Neda Nejdana lançait un cri d'alarme et disait dans sa pièce « Nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, on a besoin de l'aide de l'Occident ». Mais il a fallu l'invasion du 24 février voilà, cette année pour que ce cri de désespoir des Ukrainiens soit enfin entendu et pris au sérieux.
Merci Matteï pour toutes ces références. Dimanche prochain au Costa Rica, un ancien président et un ancien ministre s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle. Orlando Torricelli.
Ben effectivement, ce sont deux hommes expérimentés qui se feront face au deuxième tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Il s'agit de l'ancien président du Costa Rica, José María Figueres, et l'ancien ministre des Finances, Rodrigo Chávez. Figueres est issu du Parti de la Libération Nationale, parti du centre. Il a obtenu 27,3% des voix contre 16,7% pour l'économiste Chávez, ex-ministre des Finances de centre droit, qui a réussi à s'imposer comme un candidat surprise au premier tour de l'élection.
Un premier tour qui s'est tenu le 6 février dernier, avec à l'époque un vote très fragmenté.
Oui, tout à fait, c'est très fragmenté parce qu'il faut dire qu'il y avait 25 candidats dans la course. Et une abstention très forte, puisque plus de 40% des Costa-Ricains sont restés chez eux. C'est la plus forte abstention à 60 ans. Figueres et Chávez devront donc, pour commencer, combattre l'apathie de la population.
Et depuis longtemps, Orlando, ce petit pays d'Amérique centrale est connu pour sa stabilité, pour sa qualité de vie. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
C'est vrai que depuis fort longtemps, le Costa Rica était considéré comme la Suisse de l'Amérique centrale. Justement par la stabilité politique, par son système de santé, d'éducation, digne de pays riches, avec un PIB par habitant jusqu'à 10 fois plus élevé que celui de ses voisins. Mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes, avec une hausse du chômage, avec un pic de 24% à la mi-2020, et l'augmentation de la pauvreté qui touche aujourd'hui 25% de la population. Les conditions de vie ont empiré sensiblement pour beaucoup de gens, comme l'explique notre envoyé Susana, qui est une habitante de La Carpio, un quartier des environs de la capitale San José.
Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette femme ?
Elle explique tout simplement que les autorités leur conseillent, leur demandent fortement de se laver les mains pour lutter contre la pandémie, mais ils ne disposent pas d'eau potable. Ils reprochent donc au gouvernement de ne pas les protéger, soit l'actuel président ou celui qui sera prochainement élu. Les écoles ont fermé pendant toute la semaine, justement parce qu'il n'y avait pas d'eau à l'école.
Et justement, à propos de la conjoncture actuelle, vous avez interviewé l'actuel président du Costa Rica.
Oui, Carlos Alvarado, il était à Paris hier, et Braulio Moro, notre confrère, a pu l'interviewer. Évidemment, il lui a demandé quel motif pourrait expliquer ces mauvais chiffres en matière de chômage et de pauvreté. Écoutons-le.
Quand golpea la pandémie, estos indicadores suben.
Alors, quelle est la réponse du président ?
Il insiste à rappeler, c'est peut-être pas le premier ni le dernier, qu'au moment de l'arrivée de la pandémie, les indicateurs sont grimpés en flèche. Le chômage s'est dupliqué, arrivant à 25%, et la pauvreté est passée de 23 à 25%. Mais grâce aux mesures de contention adoptées par son gouvernement, la tendance a été contenue. Et aujourd'hui, les chiffres reviennent à celles d'avant la pandémie. Pour la pauvreté, ajoute le président, on aurait voulu faire mieux, mais on a dû gouverner au milieu d'une pandémie avec des très forts vents contraires.
Effectivement, un des candidats aurait été impliqué dans un scandale de corruption.
Oui, ça c'est donc l'affaire Alcatel, un scandale qui a bouleversé le pays en septembre 2004. Scandale qui a conduit en prison à l'ex-président Miguel Ángel Rodríguez Echeverría et qui a obligé à José María Figueres, l'actuel candidat, à démissionner de son poste de directeur général du Forum économique de Davos. Selon des révélations de la presse locale, lui et son entourage auraient facturé presque 3 millions de dollars à la compagnie de téléphonie française Alcatel pour une prétendue consultation sur des contrats avec une entreprise d'État. Et Figueres a choisi finalement de se faire oublier en Espagne, où en 2008, il a obtenu la nationalité. Et finalement, l'affaire n'a jamais été jugée, comme lui-même les répète inlassablement.
Et est-ce que cela ne risque pas justement de peser sur le vote de dimanche ?
Probablement, puisque l'écart avec son rival Chavez s'est réduit sensiblement. Aujourd'hui, 47% des Costa-Ricains considèrent que ce manque de transparence comptera beaucoup dans leur choix du candidat dimanche prochain. Et en même temps, 6 sur 10 considèrent que les accusations portées contre Figueres sont fondées. Sondage que son rival Chavez, naturellement, regarde avec beaucoup d'intérêt.
Et enfin, Neydi Ribeiro, l'île portugaise de São Jorge, dans l'archipel des Açores, en Atlantique Nord, a été secouée depuis le week-end dernier par une série de petits tremblements de terre.
C'est tout à fait cela, Clémentine. L'île de São Jorge est une des plus importantes au niveau économique et très réputée pour son vin et son fromage. Après l'extension de la chasse de la baleine à la fin des années 80, le territoire a été secoué depuis 19 mars, date du début de la crise sismique volcanique, par environ 24 000 tremblements, dont 221 ont été ressentis par la population, a indiqué la protection civile des Açores. Tous les habitants concernés ont été transférés à Calheta, de l'autre côté de l'île, et les autorités ont conseillé également aux personnes âgées, dépendantes et celles à la mobilité réduite, comme ceux qui habitent près des falaises, d'évacuer les sites les plus exposés. La crise sismique volcanique à São Jorge a provoqué aussi une déformation de terre dans la zone centrale de l'île de São Jorge, écrit le journal portugais Público, en expliquant que les causes exactes de cette déformation au sol ne sont pas très claires ni ne permettent pour le moment de deviner l'issue de la crise sur l'île qui enregistre une activité sismique au-dessus de la normale, bien que la libération de l'énergie ait diminué au cours des dernières années. Depuis mercredi, le nombre de tremblements de terre enregistrés sur l'île de São Jorge a réduit de façon significative, explique Eduardo Faria, lui qui est le responsable de la protection civile. Écoutons-le.
É de salientar realmente uma redução significativa do número de sismos registrados.
Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Neydi?
Il dit qu'il y a eu une réduction significative du nombre de tremblements de terre enregistrés. Mercredi, ils étaient 295 et ces derniers jours, entre 600 et 700 avaient été enregistrés. Eduardo Faria explique que des migrations sont constatées en relation avec la concentration des séismes ressentis ces derniers jours vers Rosage, dans le nord de l'île. Le responsable rappelle que ces informations effectuées par le Centre d'information et surveillance sismo-volcanique des Açores vont être analysées pour comprendre s'il y a une raison associée à cette relocalisation.
Et c'est donc à Rosais, dans le nord de l'île, que la population est la plus concernée.
Exactement. Maintenant, les séismes commencent à être plus ressentis à Rosais. Ce qui inquiète la population, c'est le cas de Luís Borges, un agriculteur basé au nord de l'île.
Et quel est le propos de cet agriculteur, Neydi?
Il dit que toute cette situation est inconnue et qu'on ne sait pas qui pourrait arriver. Il dit que les tremblements de terre ne sont pas très intenses, mais tout d'un coup, tout peut changer. Et si le volcan entre en éruption, la population ne sait pas ce qui pourrait arriver. Au cours de dernières heures, la protection civile de l'île de São Jorge a indiqué une augmentation du nombre d'agents de secours sur le terrain pour répondre à un éventuel événement sismo-volcanique de plus grande ampleur. Il faut rappeler que le dernier séisme important aux Açores, dans le groupe central de l'archipel, entre l'île Terceira et São Jorge, remonte au 1er janvier 1980. De magnitude 6,9, il avait fait 61 morts, ainsi que quelques 300 blessés et a détruit des milliers de maisons dans l'archipel.
Merci beaucoup Neydi Ribeiro de la rédaction Lusophone de RFI, Orlando Torsellini et Mattei Wisniewski. C'était Accent du Monde sur la Radio du Monde.